les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo Drieux-Combaluzier et Bâti Santé sur Radio Immo.
Eh bien, rebonsoir les amis. Voilà, on se retrouve ici au pavillon Dauphine pour la soirée de l'UNIS du Grand Paris, toujours avec son président Olivier Safar. Bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Et bien sûr, l'exceptionnelle présence de Bertrand Desfaideaux qui est sur le plateau. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Merci, on se retrouve. Voilà, avec Bertrand Desfaideaux, c'est un rendez-vous à épisode régulièrement sur les événements. Bertrand, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation du Patrimoine et vous êtes venu parler ce soir devant le public. Voilà, Notre-Dame renaît de ses cendres, sans faire de mauvais jeu de mots, avec, j'allais dire, des véritables innovations, mais aussi un souci complet, réel, d'avoir conservé l'ADN, le fondement même de Notre-Dame de Paris. Pouvez-vous nous en dire quelques mots?
Oui, le parti qui a été pris dans cette rénovation exceptionnelle repose sur deux idées principales. La première, c'est qu'il fallait aller vite. Et lorsque le président de la République a imposé le délai de 5 ans, il a été confronté à beaucoup de ricanements. Et je pense que c'est lui qui avait raison. Parce que devant une situation pareille, il y a au moins deux choses qui justifient d'aller vite. La première, c'est l'état de l'édifice qui... s'il ne s'était pas effondré, était dans une situation de péril avancée. Il suffit de se souvenir de ces grands pignons qui abritent les rosaces et qui étaient exposés à tous les vents.
Oui, très tapé. Ouais.
Et qui menaçaient l'effondrement. Mmh. Et donc, il y avait d'abord une urgence technique. Et deuxièmement, il y avait également ce qu'on pourrait appeler une urgence humaine. C'est-à-dire que pour arriver à mener un chantier aussi complexe, et qui fait appel à autant de compétences, de savoir-faire, il faut qu'il y ait une motivation, que le général Georges Lain, qui a été chargé de suivre ce chantier, a incontestablement transmise à tous les acteurs, et qui fait que s'il n'y avait pas eu cette énergie, on ne serait pas arrivé au bout. Et donc, de ce point de vue-là, il fallait faire vite, et ça a été bien fait. Et puis, le second élément sur lequel s'est fondé, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, cette restauration, c'est le principe de la restauration à l'identique, qui est un principe qui, bien sûr, s'inscrit très clairement dans le cadre de la Convention de Venise, mais qui a été très contesté dès le départ, puisque... Le président de la République lui-même avait lancé l'idée d'un appel à talent pour savoir s'il ne fallait pas refaire quelque chose de complètement contemporain sur certains éléments.
On a quand même eu quelques projets parfois un peu farfelus.
Et notamment la flèche.
Oui, la fameuse flèche.
Et donc c'est le parti de la réflexion à l'identique qui a été retenu. Je pense que c'était le seul qui était compatible avec le délai court, parce que tout autre parti aurait nécessité, bien évidemment, des appels d'offres, des confrontations, des débats, qui auraient probablement interrompu ce momentum qui était indispensable à la bonne réalisation du chantier. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce parti, il était probablement, en tout cas, en toute logique, avec la volonté de le faire dans un délai court. Je crois que ce choix de la réflexion à l'identique n'allait pas de soi, au-delà de la cohérence de la décision, parce qu'on peut rechercher d'autres formes d'authenticité. En particulier, il y a d'abord l'authenticité à l'esprit des bâtisseurs d'origine, qui ont été des novateurs absolument incroyables.
Bien sûr.
Et quand on fait la somme des éléments, par exemple, qu'on a redécouverts dans ce chantier sur l'usage de la pierre et du fer, qui est en fait une espèce de signe précurseur de ce qui a été inventé après avec le béton armé, où on utilise deux matériaux aux qualités opposées. Un matériau qui résiste à la compression, qui est la pierre, mmh. et un matériau qui résiste à la traction, qui est l'acier, qui est le fer. Bon. Les bâtisseurs de la cathédrale de Paris ont eu une audace absolument incroyable en utilisant les meilleures technologies et tous les matériaux qui étaient à leur disposition. Et donc, une première forme d'authenticité eût été de se référer à cet esprit de pionnier.
Et je pense que oui, ça avait, pionnier ça, par les innovations, oui. par un nouveau modèle. Voilà. Oui. Vous avez raison de préciser que ça n'allait pas de soi dans le sens où vous l'exprimez.
Donc, c'est une première forme de légitimité. Puis il y en a une seconde qui aurait été de refaire cet édifice dans l'état où il a été livré par les constructeurs du Moyen-Âge, et en particulier pour la flèche. Parce qu'il y a une flèche depuis l'origine, au XIIIe siècle, mmh. qui était probablement moins ambitieuse, mmh. et si j'ose dire, beaucoup plus proportionnée que celle qu'a fait Viollet-le-Duc, et que l'on aurait pu imaginer de refaire.
Mais oui.
C'était une autre forme d'authenticité.
Mmh. Et d'ailleurs, on s'entend, quand Viollet-le-Duc a installé, vous le savez, la flèche, ça avait suscité les mêmes débats à cet égard, et entre l'ancien et le nouveau.
Il y a une troisième forme d'authenticité qui est celle qui a été retenue, qui est de refaire à l'identique de ceux qu'ont connu ceux qui ont vécu l'incendie. Parce que c'est l'authenticité du regard de nos contemporains. Et vous voyez, sur le plan philosophique, ça fait trois niveaux d'authenticité différents.
Bien sûr.
On peut en choisir une. En l'occurrence, il était probablement particulièrement pragmatique de choisir la troisième, parce que les deux autres se seraient probablement perdus dans des débats infinis qui n'auraient pas permis de tenir le délai.
Il y a eu un record, finalement, qui est la durée des travaux. Ça a été extrêmement rapide, Bertrand Tfedo.
C'est incroyablement
rapide. Une mobilisation de corps de métier, de disciplines extrêmement variées. Je commençais à chiffrer, mais on est sur plusieurs dizaines de corps très différents qui se sont alliés. J'allais dire, vous savez, on parle d'innovation, donc c'est presque une vision en mode BIM qui s'est instaurée pour justement aboutir à ce résultat, puisqu'aujourd'hui, Notre-Dame va être ouverte au public.
Oui, d'ailleurs...
Elle est rendue aux fidèles, elle est rendue aux paroissiens, elle est rendue aux touristes, elle est rendue finalement au patrimoine français.
Oui, vous avez raison de souligner ce point. Je pense que, au fond, le chantier de Notre-Dame s'est transformé en véritable conservatoire des métiers.
Oui.
Et c'est d'ailleurs l'une des missions qui a été confiée à l'établissement public quand il a été constitué, la transmission des savoirs. Et je pense que cet aspect de la mission a été particulièrement bien rempli, à la fois par incontestablement la motivation de toutes ces équipes de tailleurs de pierre, de spécialistes du plomb, de maîtres verriers, de fresquistes, etc. Mmh.
De la ferronnerie de qualité,
ont concouru pour faire valoir ce qu'il y avait de mieux dans le savoir-faire actuel en France. Et puis, il y a eu un très très gros effort pédagogique par les expositions qui ont été organisées, notamment sur le parvis. Ce qui fait que ce chantier aura été probablement la source de nombreuses vocations sur des jeunes visiteurs qui, au fond, admirant le savoir-faire, l'intelligence de la main de tous ceux qui intervenaient,
absolument.
Ont peut-être trouvé des raisons de s'orienter dans une
voie. On a les deux grandes obédiences des compagnons du devoir de liberté et des compagnons du devoir du travail, dont d'ailleurs le siège n'est pas très loin, parce qu'il est place Saint-Gervais. C'est là que jadis je suis arrivé pour faire mon compagnonnage à l'époque. Et j'avais eu cette chance d'avoir un ami compagnon qui était tailleur de pierre, qui m'a fait visiter la forêt primaire il y a de ça 40 ans, 42 ans exactement, qui était un ouvrage absolument remarquable. Je sais que votre temps est compté, je vais vous laisser aller, mais je voudrais juste compléter sur deux choses. La première, c'est que finalement, tout bouleversement est propice au changement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais appelé le matin, lorsque c'est arrivé, je vous avais appelé le matin, et on était tous très ébranlés, bien évidemment, par ce cas, et vous aviez, on venait d'entendre Stéphane Bern à la radio, dans un moment d'émotion assez sanglotant, et vous m'aviez dit une chose, de toute façon, il y aura une mobilisation, et c'est vrai qu'en quelques heures, de grands donateurs on fait œuvre finalement, parce que dans tout ce que vous avez développé, il y a quelque chose, c'est le financement de l'opération, le financement des opérations. Tout le monde s'est mobilisé sur un ouvrage comme celui-là. Est-ce que ça vous a rassuré de vous dire finalement, il y a eu à travers Notre-Dame de Paris un élan quasi œcuménique, parce que bien évidemment, c'est pas là-bas que je vais prier en ce qui me concerne, mais que tout le monde s'est senti concerné. L'homme spirituel que vous êtes, puisque vous avez toujours affiché vos convictions, et si Monseigneur Lustiger était vivant, il vous aurait dit finalement que quelque part, Notre-Dame de Paris était aussi porteuse de ses valeurs œcuméniques qu'elle incarnait parfaitement dans l'histoire de notre pays.
Oui, vous parlez des grands donateurs. Moi, je suis très respectueux des grands donateurs. Ce qui me frappe, c'est l'élan que les petits donateurs ont donné aux grands donateurs. parce que, vous voyez, dans ces 850 millions qui ont été levés,
quand même,
on est dans la règle des 80-20, c'est-à-dire 80% c'est des très grands donateurs, hein, avec des unités de compte qui sont de 10 millions, 20 millions, 100
oui.
millions.
Ben oui.
Et puis, vous avez 20% du montant qui vient de 80% des donateurs.
Eh oui.
Bon. Et je pense que, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais cette course à l'échalote qu'il y a eu entre les grands donateurs, eh bien, elle n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cet élan populaire.
Eh oui. Il y a quelque chose à traduire. Ça, un petit commentaire pour vous, Olivier Safare, et ensuite on va laisser aller.
Un vrai commentaire, je pense qu'il faut remercier tous ceux qui ont fait des dons, même s'ils ont donné 10 euros, 20 euros, 50 euros. C'est quand même le plus important. Et c'est une volonté, je pense, unanime de tous, quelle que soit leur religion, de voir cet édifice qui est extraordinaire, reconstruit et remis en état, tel qu'il était. Parce que c'est aussi la vision du patrimoine que nous avons, c'est effectivement de remettre en état tel que nous le connaissions, effectivement, cette cathédrale.
Voilà, et finalement, Notre-Dame de Paris repartit pour une marque de notre histoire, Notre-Dame de Paris universelle, intemporelle, bien évidemment, et elle a fait souche, parce que vous l'avez raison, Olivier Safare, nous étions dans toutes les différentes communautés cultuelles, unis dans la défense de cette œuvre. C'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point Notre-Dame avait dans l'inconscient collectif cette place prépondérante, ce drame, cette tragédie finalement, a pu faire place finalement à un élan global de toutes les religions. C'est important de le dire dans un monde où, qui est gouverné parfois par les craintes, les peurs, des radicalismes, des replis identitaires, de voir à quel point un monument religieux, qui est un monument extraordinaire, peut être aussi le trait d'union entre les différentes communautés qui peuplent aujourd'hui notre pays.
J'ai juste vous citer une phrase qui m'a été dite par la secrétaire générale d'Europa Nostra, qui est la structure européenne du patrimoine, dont j'ai l'honneur d'être vice-président. Et elle me dit, je m'étonnais auprès d'elle de l'élan incroyable de l'ensemble des pays d'Europe et du monde entier pour la cathédrale de Paris. Et elle m'a répondu, mais tu sais, la cathédrale de Paris, c'est la mère de toutes les cathédrales.
On peut pas ne pas conclure là-dessus. Merci Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du Patrimoine, et à vous Olivier Safare, président de l'UNIS Grand Paris. Merci.
Merci à vous.
Les rendez-vous de l'UNIS en partenariat avec Axéo Drieux-Combalusier et Bâti Santé sur Radio Immo.